De quoi est-il question, au fond, dans le coaching? C'est à cette question, et il y a bien d'autres, auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec Baptiste Rapin, maître de conférence à l'Université de Lorraine. Baptiste Rapin, bonjour.
Bonjour.
Comment définissez-vous le coaching en entreprise?
Alors, on peut commencer par donner une définition officielle, celle qui est reprise de façon générale par les associations et sociétés de coaching qui définissent cette pratique comme un accompagnement destiné à réaliser son potentiel personnel en vue d'atteindre des objectifs. Mais une telle définition est quand même trop générale et surtout décontextualisée. Et c'est la raison pour laquelle je préfère prendre le temps d'une approche généalogique, c'est-à-dire comprendre d'où vient le coaching, ses origines, les différents courants de pensée qui ont pu l'influencer, pour mieux l'appréhender, pour proposer une définition peut-être plus complète. Alors, pour ce faire, je me suis très largement inspiré des travaux de ma collègue Sybille Persson, qui est professeure de management à l'ICN et qui a consacré sa thèse, tout comme moi, au coaching. Et dans ce cadre, dans le cadre de ce travail doctoral, Sybille a proposé ou développé une approche bibliométrique du coaching, c'est-à-dire qu'elle est allée analyser les références que les coachs utilisaient dans leurs ouvrages. Et à partir de ce travail de ma collègue, j'ai moi-même essayé de dresser une généalogie du coaching qui met en évidence trois grandes étapes dans sa formation. Et c'est la prise de conscience de ces trois grandes étapes qui, à mon sens, permet de mieux circonscrire ce qu'on entend par coaching. Première étape, et je vais remonter le temps. Donc, je commence par la couche la plus récente qui nous renvoie vers ce qu'on appelle le New Age, le Nouvel Âge, ou encore le développement personnel. C'est-à-dire cet ensemble de pratiques psychocorporelles qui apparaît dans les années 1960, principalement en Californie, dans un institut qui s'appelle l'Institut Esalen, et qui a été créé par notamment des figures que beaucoup de monde, en tout cas dans le milieu du coaching, tout le monde, c'est certain, connaît, Abraham Maslow et Carl Rogers. Donc, Abraham Maslow, connu pour sa trop fameuse pyramide, qui a été utilisée dans tous les sens, à tort et à travers, et Carl Rogers, pour l'importance qu'il a accordée à l'empathie dans la relation thérapeutique. Ben, ces deux personnes font partie des fondateurs de l'Institut Esalen en Californie et participent de façon plus générale à la contre-culture américaine des années 60, c'est-à-dire cette réaction spirituelle, on peut dire, à la société de consommation. Et c'est à l'Institut Esalen qu'entre autres a été conçu la programmation neurolinguistique par Bandler et Grinder, qui est très certainement l'une des méthodes les plus utilisées par les coachs encore aujourd'hui. Et je note également qu'Eric Berne a développé son analyse transactionnelle à 15 km d'Esalen au même moment, à la même période. L'Institut Esalen, par ailleurs, a accueilli un certain Fritz Perls, qui est le père de la Gestalt-thérapie et qui, justement, a servi de modèle à Bandler et Grinder. Donc voilà une première étape, mais un autre personnage nous met sur la piste de l'étape précédente, et ce personnage, c'est Gregory Bateson, anthropologue, qui fut l'époux de Margaret Mead, qui a une vie absolument passionnante pour ceux qui voudraient s'y intéresser. Il a été notamment agent secret pour l'OSS et la CIA. Il a créé, et j'en viens à ma deuxième étape, le Mental Research Institute, qui allait devenir l'école de Palo Alto. Et donc, Bateson a été résident à l'Institut Esalen. C'est pour ça que je dis qu'il est le lien entre la troisième et la deuxième étape. Et le Mental Research Institute avait pour vocation de développer des analyses de la communication. Et c'est là ce qu'on appellera plus tard la nouvelle communication, dont les figures, ou la figure peut-être la plus influente, mais qui en fait n'arrive que tardivement dans cette école, n'est autre que Paul Bazlavic. Et donc, l'école de Palo Alto propose tout un arsenal d'analyses des interactions qui évidemment sont centrales dans le cas du coaching. Et enfin, dernière étape, toujours par Bateson. Bateson a été fortement influencé par la cybernétique. Nous sommes là dans les années 40. Il a été l'ami intime de Norbert Wiener, qui est le mathématicien qui a donné à la cybernétique son nom. Et la cybernétique, c'est la science du contrôle et de la communication, c'est-à-dire finalement la capacité à contrôler un système par la bonne maîtrise de l'information, ce qui forme le cadre général de l'école de Palo Alto, mais également du Nouvel Âge. Donc s'il fallait donner une définition du coaching pour répondre en fin de route, en fin de course à votre première question, on pourrait dire que c'est une pratique d'accompagnement, de gestion, qui passe par la gestion de l'interaction avec une personne qui doit développer son potentiel, c'est-à-dire à prendre conscience de ses propres schémas d'information. L'important, c'est cette place centrale accordée à l'information, à son traitement, à la fois dans le développement personnel et dans l'atteinte des objectifs qui ont été fixés au préalable.
Alors, si je comprends bien, le coaching est apparu dans les années 60. Aujourd'hui, il s'est particulièrement développé, et notamment en entreprise. Et ça sera un petit peu le cœur de mes questions suivantes. Quel est le lien que l'on peut voir entre le coaching qui est pratiqué aujourd'hui en entreprise et celui, par exemple, de la première étape que vous avez évoquée, qui est née dans les années 60 en Californie, qui soulevait une sorte de réaction à la société de consommation.
Alors, votre question appelle plusieurs niveaux de réponse. Tout ce mouvement lié au New Age, au développement personnel, aux communautés hippies, se trouve largement à l'origine d'une mutation du système capitaliste, qui a été parfaitement analysé par Luc Botanski et Eve Capello. D'ailleurs, ils ont appelé cette mutation le nouvel esprit du capitalisme, en référence à Max Weber, qui se caractérise notamment par sa capacité très plastique à intégrer toutes les critiques qui lui sont adressées, et notamment toutes les critiques qui visaient à montrer que le capitalisme est un système bridant les personnalités. Et donc à partir des années 70, le capitalisme rompt avec la logique hiérarchique, patriarcale, on dirait aujourd'hui, pour justement récupérer toutes ces techniques de développement de soi qui ont été conçues donc dans les années 50 et 60. Là, c'est une première réponse, c'est la mutation du système économique, du système capitaliste, qui explique la présence du coaching, non pas à certains cercles réservés du développement personnel, mais dans quasiment toutes les organisations contemporaines, entreprises, mais plus largement institutions. Deuxième élément de réponse, il me semble que les fondements du coaching n'ont pas changé. Et là, je voudrais insister sur une référence qui est assez peu connue, mais pourtant centrale dans l'histoire du coaching, qui est le livre de Maxwell Maltz, publié en 1956 et qui s'intitule « Psycho-Cybernetics », si je traduis littéralement « psycho-cybernétique ». L'idée est extrêmement simple, il s'agit de considérer l'être humain comme un système de traitement de l'information qui s'autorégule par apprentissage. Autrement dit, le développement de soi pour Maltz passe par premièrement, un comportement dit téléologique, c'est-à-dire le fait de se fixer d'objectifs, le fait de se projeter dans l'avenir par un comportement intentionnel. Deuxièmement, par la mise au point d'un plan d'action qui permet d'atteindre cet objectif. Mais surtout, troisième point, c'est là le plus important, d'un système de suivi et d'évaluation de l'action pendant qu'elle se déroule. Et ce système de suivi, c'est précisément la phase de contrôle, hein. Je parlais de contrôle tout à l'heure quand je définissais la cybernétique. Cette phase de contrôle est extrêmement importante, elle est stratégique parce qu'elle permet de mesurer les écarts entre l'état désiré et l'état atteint, de façon à enclencher, et c'est la quatrième phase, des actions correctives, hein, pour se rapprocher toujours plus près de la finalité fixée. Et ces quatre étapes définissent ce qu'on appelle une boucle de rétroaction, ou encore en anglais un feedback, tout simplement synonyme d'apprentissage. Donc le coaching, cette psycho-cybernetics, dont le coaching est héritier, c'est en fait le savoir ou l'accompagnement en vue d'une dynamique d'apprentissage. Et cela n'a pas changé, ce modèle cybernétique, hein, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, je dirais qu'il y a un dernier élément qui explique aujourd'hui la popularité du coaching, en tout cas son décollage dans les années 90 aux États-Unis et dans les années 2000 en France, c'est le sport. C'est la médiatisation du sport, c'est la professionnalisation du sport, c'est l'apparition de coachs professionnels qui vont réussir à mener des sportifs au-delà de leurs limites, si je puis dire. C'est Timothy Galloway aux États-Unis, qui a été un coach influent non seulement en golf, mais aussi en tennis ou en ski. En France, c'est par Aimé Jacquet et la victoire de la Coupe du Monde en 1998 que le coaching a été popularisé. Aimé Jacquet a été fortement sollicité par les entreprises après son succès. Et on voit, hein, chronologiquement une quasi superposition entre cette victoire à la Coupe du Monde et l'essor du coaching en France au début des années 2000. Donc voilà les trois éléments qui, je pense, permettent de comprendre la continuité et la discontinuité entre les premières étapes des années 50-60 et le coaching contemporain.
Alors, si Aimé Jacquet, je ne pensais pas évoquer son nom aujourd'hui, mais a favorisé l'apparition du coaching en entreprise en France, quelles sont les intentions de ce coaching? Qui sert-il et à quoi contribue-t-il?
Alors, là, il y aurait deux niveaux de réponse. Un niveau qui est celui de l'explicite. Si on écoute les acteurs du coaching, les coachs eux-mêmes et puis les formateurs de coachs, donc les coachs de coachs, le coaching a, disons, un double objectif qui est présent dans la définition initiale que j'ai donnée. Premièrement, l'atteinte d'objectifs, autrement dit la performance, hein, si on définit la performance comme le fait d'atteindre des objectifs avec une optimisation des ressources, des moyens, on peut dire que la performance caractérise le geste du coaching. Mais cette performance, à cette performance doit s'allier un développement personnel, c'est-à-dire l'exploration et l'exploitation d'un potentiel interne qui favorise un état à la fois de bien-être subjectif et de résultats objectifs. Donc bien-être et performance. Et avec un petit peu de recul, on se rend compte que le coaching s'inscrit parfaitement dans la logique utilitariste qui avait été définie par Jeremy Bentham, le philosophe britannique, au XVIIIe siècle. Le fondateur de l'utilitarisme considérait que l'utilité est le critère principal de la décision, de l'action et de l'évaluation, que l'utilité a un double versant. Il existe, nous dit Bentham, une utilité objective, c'est-à-dire qui se mesure, qui est quantifiable, qui est tangible, voire matérielle. Et donc là, ça fait écho à l'atteinte des objectifs qui caractérise donc le coaching. Mais à ce premier type d'utilité, ajoute Bentham, se superpose une utilité dite subjective, définie par le bien-être. Alors là, c'est très intéressant. Cette logique du bien-être chez les utilitaristes, parce que on retrouvera 2 siècles plus tard cette assimilation de la santé au bien-être dans la définition même que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, donne de la santé, hein, un état complet de bien-être. Et le coaching s'inscrit donc dans ce paradigme utilitariste général en voulant concilier ces deux aspects de l'utilité. Bon, là, c'est un premier niveau de réponse. Oui, j'ai donné, la définition officielle et puis j'essaie d'en proposer une analyse philosophique, premier niveau de réponse. Mais il y a un deuxième niveau de réponse à votre question qui me semble passer par une analyse du rôle social, voire même anthropologique, que joue le coaching dans les sociétés postmodernes. C'est un point qui a été particulièrement étudié par Valérie Brunel dans un livre qui a connu, je pense, un certain succès à l'époque, Les managers de l'âme. Les managers de l'âme, dans lequel l'auteur propose une approche foucauldienne, donc à partir des travaux de Michel Foucault, du coaching. Et voilà en substance ce que nous dit Valérie Brunel et que je crois tout à fait pertinent. Si on caractérise la postmodernité comme cette époque de décomposition des grands récits et donc de la disparition des figures d'autorité, le patron, hein, qui deviendra un manager, le père de famille, l'instituteur qui est devenu professeur des écoles, etc. Alors, on ne peut plus passer par l'ordre, la hiérarchie, c'est-à-dire par un rapport de commandement à obéissance, pour obtenir d'autrui un comportement. Pour reprendre ici, de façon très symbolique, un slogan de mai 68, s'il est devenu d'interdit d'interdire, alors on ne peut plus donner d'ordre. Pour autant, dans une entreprise, on a toujours, ou une organisation, besoin d'amener les salariés, les travailleurs, à faire des choses qu'ils n'auraient pas fait d'eux-mêmes. Comment le faire sans donner d'ordre? Eh bien, il faut user de processus d'influence, de séduction, au sens étymologique de séducérer, c'est-à-dire détourner quelqu'un de son chemin. Et le coaching, me semble-t-il, fait partie d'un ensemble de dispositifs de management soft, hein, visant à influencer le comportement d'autrui sans passer par la voie hiérarchique. C'est assez simple. Aucune entreprise ne finance des séances de coaching sans s'être mis d'accord dans le cadre d'un contrat tripartite, entreprise, coach, coaché, sur les objectifs à atteindre. Donc on voit bien qu'il y a derrière la prestation de coaching en entreprise, le poids de la hiérarchie, la surveillance de la hiérarchie par rapport à ses objectifs à atteindre. Donc, pour le formuler autrement, le coaching dans la société postmoderne est une forme de gouvernementalité des populations.
Et alors, si le coaching en entreprise permet d'allier, en tout cas, c'est sa promesse, efficacité, épanouissement personnel, bien-être, on va dire, et performance, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher?
Alors, il y a plusieurs, familles de critiques du coaching. Il y a une première famille qui se penche, je dirais, sur les effets du coaching. Je classerai dans cette famille notamment toutes les analyses qui peuvent être conduites du côté de la sociologie clinique, autour par exemple de Vincent de Goljac. Le coaching peut provoquer des effets de suridentification aux normes de l'organisation, peut provoquer des images biaisées de soi, etc. Ça, c'est un volet que je n'explore pas, je ne suis pas spécialiste de cette approche. Il y a un deuxième critique qui me semble très pertinente et dans la lignée de ce que je viens de décrire, c'est-à-dire si le coaching est effectivement une nouvelle forme de gouvernement des populations, des individus qui se passent de la hiérarchie, alors cela signifie que la généralisation de ces pratiques d'accompagnement procède à une psychologisation des rapports sociaux. C'est-à-dire que plutôt que d'envisager la vie collective comme un ensemble de rapports sociaux qui impliquent donc des conflits, et donc des résolutions de conflits, et comme des rapports politiques qui impliquent donc qu'il y ait une délibération commune, on reporte sur l'individu et ses problématiques psychologiques, le développement de son potentiel notamment, le fait de lever des croyances limitantes, donc tout ça se trouve au cœur du coaching, donc on reporte sur l'individu et ses caractéristiques, propriétés ou aptitudes psychologiques, les questions qui pourtant relèvent de la collectivité. Donc là, il me semble y avoir un point absolument central, mais qui n'est pas neuf. C'est-à-dire que là aussi, le coaching s'inscrit dans une histoire plus générale, qui est celle de la Seconde Guerre mondiale et de l'après-Seconde Guerre mondiale. Pourquoi est-ce que je remonte à cette date très précisément? Parce que la responsabilité des atrocités, les camps de concentration, les bombardements, l'arme nucléaire, etc., fut attribuée à l'exercice de la souveraineté, c'est-à-dire non pas à tel ou tel pays, mais aux politiques en tant que telles. Et s'est alors développé un projet, notamment issu de la cybernétique, porté par l'UNESCO, porté par la Fédération mondiale pour la santé mentale, toute née en 46-47, donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale, un projet d'utiliser les savoirs des sciences humaines pour gérer les relations internationales, puisque finalement, on ne peut plus faire confiance aux États souverains. Ils usent de leur souveraineté pour faire de la guerre et commettre des atrocités. Donc, le projet d'une psychologisation des relations politiques apparaît nettement à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et il faut comprendre le coaching comme une application micro quelque part, hein, c'est-à-dire non pas au niveau des relations internationales, mais au niveau des relations interindividuelles dans une organisation, comme une application de cette psychologisation ou psychiatrisation des rapports humains. Donc ça, c'est une critique qui me paraît centrale. Le coaching dépolitise les communautés humaines.
Pour conclure, j'aimerais avoir votre avis sur, sur ce dont est le reflet le coaching aujourd'hui, c'est-à-dire s'il est aussi présent, s'il a exposé dans les années 90 aux États-Unis, dans les années 2000 en France et en Europe. Qu'est-ce que le coaching, et notamment le coaching en entreprise, dit de notre époque et de quoi en est-il le reflet ?
Alors, le coaching est à la fois le reflet, mais aussi, comment dire, une pratique qui crée la société. Le coaching n'est pas qu'en position passive, il n'est pas que le fruit d'une société, il est aussi une pratique, comment dire, qui modèle la société dans laquelle on vit. Et on peut considérer de façon générale que le coaching fait partie de l'ensemble de ces techniques, de ce que les anglo-saxons appellent la self-help. On a du mal à traduire parce que auto-aide, ce n'est pas une expression adéquate en français, mais self-help comprend aussi bien la montre connectée, hein, qui va surveiller le nombre de calories dépensées, le nombre de pas effectués dans une journée, mesurer les performances sportives, évaluer la qualité du sommeil, enfin bon, etc., que les pratiques d'accompagnement comme le coaching. Alors, que nous disent toutes ces pratiques de self-help de la société contemporaine ? Ben précisément, que nous sommes entrés dans une société cybernétique, c'est-à-dire une société, je vais reprendre ici le terme qu'utilise Gilles Deleuze, le philosophe Gilles Deleuze, une société du contrôle continu. C'est-à-dire une société dans laquelle, à chaque instant, à la fois par des moyens techniques, mais également par des moyens psychologiques, l'action de l'individu se trouve évaluée en vue de son amélioration. C'est ce qu'on appelle finalement l'amélioration continue dans le jargon de l'entreprise, mais qui ne concerne pas que les seules usines. Donc si le coaching dit quelque chose de notre époque, c'est certainement qu'il est révélateur de ce prométhéisme, c'est-à-dire de cette volonté que nous avons, nous autres modernes, nous autres postmodernes, de toujours repousser les limites avec le risque évidemment de tomber dans la démesure.
Baptiste Rapin, merci.
Merci à vous pour votre invitation.
C'est ainsi que se termine notre épisode consacré au coaching en entreprise. Pour aller plus loin, je vous invite à lire Les enjeux anthropologiques du coaching, ouvrage de Baptiste Rapin paru fin 2024 aux éditions Ovadia. Merci et à très bientôt.